Il y a eu toute une série d'erreurs, notamment en Syrie, bien entendu. Au départ, Ankara était l'allié principal du régime Bachar el-Assad, mais ensuite a décidé de soutenir l'opposition de Bachar el-Assad pour pouvoir devenir le leader régional. Mais de cette opposition, la seule structure capable de fédérer était l'État islamique. Et à un moment, la Turquie, Ankara, a même soutenu indirectement l'État islamique. Mais l'État islamique également s'est retourné contre son créateur et a commencé à commettre des attentats à l'intérieur même de la Turquie. Et parallèlement, dans le même temps, le processus de paix avec les Kurdes a été interrompu et il y a eu une véritable guerre civile à l'intérieur même de la Turquie, au sud-est de la Turquie, des villes kurdes ont été encerclées par l'armée turque et il y a eu, bien entendu, une réponse avec une violence du PKK qui s'est répandue dans les villes. Ankara, maintenant, paye la tribu, paye la sanction de cette conjugaison d'erreurs en politique étrangère devenant une cible principale dans la région.
L'État islamique, qui est soupçonné d'avoir organisé cet attentat, a pourtant pour habitude de revendiquer ces attaques partout dans le monde. Alors pourquoi ne le ferait-il pas en Turquie ?
Et chacun a son hypothèse sur cette question. Là, il n'y a pas de doute que ce soit l'État islamique, à la fois dans la forme de l'attentat et puis les personnes qui ont commis cet attentat. Mais il y a eu une telle imbrication entre les militants de l'État islamique et ce qu'on appelle l'État profond en Turquie que je suppose que l'État islamique préfère ne pas revendiquer pour ne pas attirer les ires du pouvoir en Turquie. C'est une situation très très compliquée et dans des conditions aussi complexes, l'État islamique préfère effectivement ne pas revendiquer ses attentats en Turquie.
Toutes ces attaques sur le sol turc, est-ce que ça signifie que le pays n'est pas prêt à faire face à ces défis sécuritaires ?
Là, il n'y a pas de doute. Il y a un manque, il y a des lacunes immenses dans le renseignement, dans la sécurité, mais peut-être que même des copinages à l'intérieur même de l'État profond en Turquie. Il est sûr et certain qu'aujourd'hui, le régime en place ne peut pas garantir la vie de ses citoyens, de ses ressortissants et d'autres qui seraient en Turquie actuellement.
Et comment d'ailleurs ces ressortissants réagissent-ils à ces manquements sécuritaires de la part de la Turquie ?
C'est la grande surprise dans la mesure où depuis 15 ans, l'AKP est au pouvoir et au bout d'une année totale de violence en Turquie, on aurait pu s'attendre à un mécontentement de l'opinion publique turque, de l'électorat de l'AKP face au régime. Mais il y a un régime d'un seul homme tel que la presse entièrement est muselée, utilise le langage que le pouvoir lui demande et il y a une espèce de silence de l'électorat de l'AKP qui n'arrive pas à exprimer son mécontentement vis-à-vis du pouvoir parce que chaque critique, le moindre petite critique est immédiatement taxée de trahison à l'État. Même à l'intérieur de l'AKP, les anciens fondateurs de l'AKP qui ont osé critiquer le pouvoir de Recep Tayyip Erdogan ont été lynchés littéralement par les médias et par les réseaux sociaux. Donc dans de telles conditions, exprimer un mécontentement devient impossible.
La Turquie et la Russie, dont les relations diplomatiques étaient tendues depuis plusieurs mois, viennent d'annoncer qu'elles s'engageaient dans un processus de normalisation de leurs relations. Alors qu'est-ce que la Turquie a à y gagner ?
La Turquie n'a pas d'énergie, c'est-à-dire qu'elle n'a pas les moyens de la politique qu'elle mène. La Turquie ne possède ni de gaz naturel, ni de pétrole, ni de centrales nucléaires. L'ensemble de la politique étrangère et interne de la Turquie s'appuie sur un discours, sur un simple discours. Et se couper des ressources énergétiques qui transitent d'Israël et de la Russie est de se suicider.
Et après la réconciliation avec Israël, avec la Russie, c'est quoi la prochaine étape pour la Turquie ?
À mon avis, la prochaine étape, c'est la réconciliation avec Bachar el-Assad. Encore une fois, en ravalant tout un discours de ces 4 dernières années et de revenir à la case départ après je ne sais plus combien de milliers de morts et la création de cet État islamique, peut-être qu'Ankara sera obligé, comme ce fut le cas d'autres puissances occidentales d'ailleurs, sera obligé de se rapprocher du régime de Bachar el-Assad qui avait été considéré comme le démon en personne pendant ces 4-5 dernières années.
Et qu'est-ce qui fait que les pays occidentaux acceptent de refaire des partenariats avec la Turquie ?
Ankara a un atout entre les mains qui fait peur à ses partenaires occidentaux. Ankara utilise les réfugiés, la crise des réfugiés en Turquie, 3 millions, comme une monnaie d'échange, comme un moyen de pression inacceptable d'ailleurs. Jusqu'à maintenant, notamment l'Allemagne et la France ont cédé à ce chantage. C'est ça le problème. C'est à la fois le maillon faible, mais un maillon qu'on ne peut pas écarter.